Merci d'écouter RFI. 8h à Washington et à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel. Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain avec Haïti à la une, où un nouveau drame vient mettre en lumière les conséquences de la violence des gangs sur les enfants et sur les jeunes. Amnesty International publie un rapport sur la question et nous serons en ligne dans quelques minutes avec la présidente de l'ONG en France pour en parler. Nous reviendrons également sur cette nouvelle offensive d'Elon Musk contre les fonctionnaires, contre les agences fédérales aux États-Unis. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure de ces crispations en Martinique entre le préfet et le leader du mouvement de contestation contre la vie chère.
Le nouveau préfet de la Martinique qui ne semble guère pressé de rencontrer Rodrigue Petitot, le leader du RPRAC, dont nous entendrons la réponse tout à l'heure.
À tout à l'heure. Et tout de suite le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avec d'abord ces incertitudes sur la suite de la guerre en Ukraine.
Oui, des frappes russes ont fait au moins un mort et 3 blessés ce matin à Kiev. Pour l'Ukraine, c'est la preuve que Vladimir Poutine ne se prépare pas à la paix. Mais dans le même temps, les déclarations autour de possibles négociations de paix se multiplient. Le journal Le Guardian publie une interview du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il esquisse ce qui pourrait être une première concession, l'échange de territoire. Anastasia Becchio, bonjour.
Bonjour.
L'idée a aussitôt été balayée par le Kremlin.
Oui, si l'Ukraine entend bien faire de la région russe de Koursk une monnaie d'échange pour récupérer des terres occupées par l'armée russe, Moscou ne l'entend pas du tout de cette oreille. Pas question pour la Russie de céder les zones conquises. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
C'est impossible. La Russie n'a jamais discuté et ne discutera pas de l'échange de son territoire. Et bien sûr, les formations ukrainiennes seront expulsées de ce territoire. Tous ceux qui ne sont pas détruits seront expulsés.
L'armée ukrainienne mène depuis le mois d'août une offensive dans cette région de Koursk. Si les Russes ont pu reprendre une partie des territoires conquis, ils ne parviennent pas à repousser les Ukrainiens de l'autre côté de la frontière. Et ceux-ci contrôlent environ 450 km² et sont même repassés à l'offensive ces derniers jours. Sur le reste de la ligne de front, dans l'Est et le Sud, les forces russes poursuivent leur progression face à une armée ukrainienne en manque d'hommes et de moyens. Les forces russes occupent aujourd'hui près de 20% du territoire ukrainien, soit quelque 112 000 km². En plus de la Crimée, Moscou a officiellement annexé 4 régions ukrainiennes en 2022, mais elle n'en contrôle aucune dans sa totalité. Vladimir Poutine a jusque-là refusé de négocier avec Volodymyr Zelensky. Il continue de réclamer de l'Ukraine qu'elle dépose les armes, qu'elle cède 5 régions et renonce à rejoindre l'OTAN.
Anastasia Becchio, merci.
Au Proche-Orient, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas de plus en plus fragile.
Oui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est allé hier dans le même sens que Washington en promettant de relancer l'offensive sur Gaza si les otages n'étaient pas relâchés d'ici à samedi. Devant cet ultimatum, la population de Gaza, elle se sent totalement désemparée. Elle redoute plus que jamais de voir l'avenir de l'enclave s'écrire sans elle. Écoutez le témoignage du docteur Mohamed Abou Raya de Deir el-Bala. C'est une localité du centre de Gaza.
Il semble que la guerre menace à nouveau entre le Hamas et Israël. Avec nous, les civils au milieu, sans la moindre possibilité de donner notre avis. La situation ici est chaque jour plus misérable, même avec le cessez-le-feu. Je pense que ni les deux gouvernements, israélien et américain, ni le Hamas n'ont de respect pour le droit humanitaire ou la Convention de Genève. La communauté internationale doit s'entendre sur une vision politique pour résoudre la question palestinienne. Nous rejetons toutes les solutions qui proviennent de Donald Trump ou les autres politiciens, parce qu'elles ne répondent pas au moindre des besoins, des revendications de notre peuple et de nos enfants, et notamment le droit de vivre chez nous en paix.
Témoignage d'un Palestinien recueilli par Abla Junaidi. On ne quitte pas l'enclave palestinienne. À travers cette fois le regard du cinéaste palestinien Rachid Macharawi, son nouveau film s'appelle From Ground Zero. C'est une suite de 22 courts-métrages de Gazaouis qui racontent leur quotidien. Sophie Torlotin.
Des enfants réalisent un film d'animation en papier découpé et racontent sans pathos que leur mère écrit leur prénom sur leurs membres en cas de bombardement. Un comique tente de montrer son spectacle de stand-up au milieu d'un camp de réfugiés et un cinéaste utilise le bois de son clap de réalisateur pour se chauffer et tant pis pour le cinéma. Voici quelques éclats parmi ces 22 courts-métrages tournés avec les moyens du bord. Ce sont autant de fenêtres sur la vie des civils gazaouis, leur lutte quotidienne pour se nourrir, trouver de l'eau ou recharger leur téléphone portable. Le nom du Hamas n'est jamais cité et il n'est pas plus question de politique. L'initiateur du projet, le réalisateur Rachid Macharaoui, veut avec ce film mettre des visages et des noms sur la tragédie palestinienne et prouver qu'en dépit des privations, de la mort et de la peur, l'art peut rester dynamique à Gaza et également l'humour, même s'il est noir, comme dans Hell's Heaven, qui montre un homme s'emparer d'un sac mortuaire pour y dormir afin d'en profiter. Vivant.
From Ground Zero, ce film sort en salles en France ce mercredi.
Direction le Brésil maintenant, où les étés sont de plus en plus chauds.
Oui, c'est si vrai, Anne, que la rentrée des classes a été reportée dans le sud du pays à cause de la chaleur. Ce report concerne pas moins de 700 000 élèves de l'état du Rio Grande do Sul. Les précisions sur place de Sarah Cozzolino.
Les températures réelles peuvent dépasser les 40 degrés et même les 50 en température ressentie, alors que 75% des écoles de l'état du Rio Grande do Sul n'ont pas de système de climatisation. Selon le syndicat des enseignants, les 2320 écoles de l'état n'ont pas de structure suffisante pour affronter les températures 5 degrés au-dessus des normales de saison. Le tribunal du Rio Grande do Sul a donné raison au syndicat pour la sécurité et le bien-être de la communauté scolaire. Le gouvernement de l'état a quant à lui fait appel de cette décision qui retarde la rentrée d'une semaine. Au mois de mai 2024, les élèves de cet état ont été fortement touchés par de tragiques inondations qui ont causé la mort de près de 200 personnes et suspendu les cours pendant plusieurs semaines. La sécheresse en Amazonie a également affecté 1700 écoles dans le nord du pays. Selon l'UNICEF, au total, 1 170 000 élèves ont été interrompus dans leur cursus scolaire au cours de l'année 2024 au Brésil à cause d'événements climatiques extrêmes. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Cette question en France, François Bayrou a-t-il menti devant l'Assemblée nationale ?
Hier, le Premier ministre a été interrogé par un député LFI sur les centaines de plaintes déposées pour agressions sexuelles au collège Notre-Dame de Bétarame, établissement catholique du sud-ouest de la France. François Bayrou a redit qu'il n'était au courant de rien. Le maire de Pau a pourtant scolarisé plusieurs de ses enfants dans cet établissement. Et ce matin, Louis Cal, le média d'investigation Mediapart a publié des révélations qui pourraient faire voler en éclats sa défense.
Pour le journal, François Bayrou ment. Il a reçu au moins 3 alertes mentionnant des faits de violence à Notre-Dame de Bétarame. Première alerte en 96. Une professeure affirme lui avoir parlé d'un climat violent dans l'établissement. François Bayrou, alors ministre de l'Éducation, aurait répondu qu'elle exagérait sans doute un peu. La même année, une plainte est déposée contre un surveillant pour des faits de violence. Ce qui n'empêche pas, un mois après, François Bayrou d'organiser une visite officielle dans l'établissement, au cours de laquelle il aurait évoqué des attaques contre le collège-lycée. Deuxième alerte en 1998. François Bayrou rencontre un juge d'instruction qui lui annonce la mise en examen pour viol du directeur de l'établissement. Enfin, troisième alerte la plus récente, un courrier adressé en mars dernier au maire de Pau. Un septuagénaire reconnu comme victime de viol à Bétarame par l'Église appelle l'élu à ne plus ignorer les multiples témoignages. François Bayrou n'a jamais répondu à ce courrier et hier, devant l'Assemblée, il a annoncé qu'il porterait plainte pour diffamation sans préciser contre qui.
Lou Ecal du Service France. Et enfin, à l'instant, on apprend que les députés socialistes dans cette affaire demandent au Premier ministre que la lumière soit faite. Très bonne journée sur RFI, tout de suite en compagnie d'Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Le prochain journal dans 50 minutes sur RFI. Et pour l'heure, nous sommes sur le continent américain et d'abord en Haïti.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Où les jours se succèdent dans la terreur. Hier, un étudiant a été tué, touché par une balle alors qu'il était en cours au Centre d'études diplomatiques et internationales à Port-au-Prince. Ce nouveau drame a choqué tous les jeunes, les étudiants, les enseignants aussi. Notre correspondant Peterson Luxama a recueilli des réactions d'actuels ou d'anciens étudiants de ce centre universitaire.
La nouvelle de la mort tragique de l'étudiant Lebel Marcena plonge des étudiants de la capitale dans la consternation, à l'image de Naomi Lecomte, ancienne étudiante du CEDI.
Ce qui s'est passé m'a profondément touchée. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis mise à trembler, incapable de retenir mes larmes. J'ai fini par comprendre que l'État ne veut plus de nous dans ce pays. Les conditions ne sont pas réunies pour étudier ici. Pourtant, des étudiants bravent chaque jour le danger pour apprendre. Mais malgré cela, on dirait qu'ils ne veulent pas vraiment de nous dans ce pays.
Marcena Lebel n'avait pas imaginé que sa quête de savoir se terminerait ainsi, fauchée par une balle perdue. Son seul tort, avoir choisi de rester dans son pays pour étudier, convaincu que l'éducation lui assurerait un avenir meilleur. Pour Davidson Désir, ancien étudiant du centre universitaire, ce drame est révoltant. Il met en cause la responsabilité de l'État.
Ça a révolté, moi parler avec lui.
Cela m'a révolté. J'ai parlé à plusieurs camarades et nous sommes tous traumatisés. Cela montre clairement que l'État ne contrôle rien. Cela prouve aussi que personne n'est à l'abri.
Cette tragédie dénoncée par le gouvernement rappelle une triste réalité. Étudier en Haïti devient un acte de résistance. Et c'est toute une génération qui se demande si elle a encore sa place dans son propre pays. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Toute une génération menacée, c'est aussi ce que dit un rapport d'Amnesty International publié aujourd'hui. Une enquête sur l'ampleur des violences sur les enfants et sur les jeunes, sur ce que les gangs leur imposent. Amnesty a recueilli des témoignages, mis des noms, des histoires sur des chiffres. Bonjour Anne Savinel Barras.
Bonjour.
Vous êtes la présidente d'Amnesty en France. Votre organisation a pu parler avec des dizaines d'enfants victimes de violences à Port-au-Prince, mais aussi à Cité-Soleil, à Tabar, à Croix-des-Bouquets, Delma, Carrefour, Quinscoff ou encore Gressier. Et vous avez constaté que le cas de cet étudiant-là, dont on parlait à l'instant, est très très loin d'être isolé.
Oui, tout à fait. Nous avons donc enquêté dans les, à Port-au-Prince et dans l'ouest en fait, du pays, dans l'ouest de la capitale. Et donc, nous sommes en mesure, malheureusement, d'affirmer qu'il y a une véritable offensive contre l'enfance à Haïti actuellement. Les enfants sont dans une situation de détresse généralisée. De multiples vies sont détruites et les enfants se violent. Donc, nous avons enquêté auprès d'enfants âgés d'environ 12 à 17 ans. Pour les plus jeunes, effectivement, c'est plus difficile. Mais nous avons interrogé des parents, nous avons interrogé aussi des travailleurs humanitaires, qu'ils soient internationaux ou nationaux. Et nous avons donc pu mettre en évidence ce que je nommerais en fait trois grandes catégories de manquements évidents aux droits élémentaires des enfants.
On va les aborder une par une, si vous le voulez bien. D'abord, les victimes de tirs, les enfants qui sont blessés, voire tués, comme cet étudiant dont on parlait à l'instant. Ils sont très nombreux et vous avez constaté notamment que très souvent, les victimes n'ont strictement rien à voir avec les affrontements.
Tout à fait. La guerre des gangs, en fait, dans les différents quartiers des villes, donc, amène à des attaques délibérées, des tirs aveugles sur les habitations, sur les habitants. Et les enfants font les premières victimes, en fait, de ces tirs. Donc, nous avons relevé un grand nombre de blessures, que ce soit au visage ou sur le corps, et ainsi que des enfants qui ont été tués par ces armes. Donc, des homicides, des blessures aveugles qui font en premier des victimes parmi les enfants.
Il y a un autre point que vous soulignez dans votre rapport, c'est l'ampleur des violences sexuelles. On parlait il y a quelques jours sur cette antenne de ce chiffre sidérant, les violences sexuelles contre les enfants multipliées par 10 en un an seulement, ce qui faisait dire à l'UNICEF que leur corps était devenu désormais des champs de bataille. Vous aussi, vous avez documenté de très très nombreux cas de viols et d'agressions sexuelles. Et il faut le dire, pas seulement au moment des attaques menées par les gangs. En fait, le risque pour les filles est permanent quasiment.
Oui, il est permanent, effectivement. Enfin, les filles donc, se font enlever dans la rue lorsqu'elles vont à l'école, lorsqu'elles vont faire les courses. Mais moi, dans le rapport, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée, c'est ces bus qui transportent de jeunes filles pour les emmener à l'école, en fait, sont arrêtés par les gangs. Et toutes les jeunes filles sont enlevées. Elles sont enlevées, elles sont violées. Et certaines d'entre elles sont soumises à l'exploitation sexuelle, donc à une prostitution forcée. Bon nombre d'entre elles, par ailleurs, se retrouvent enceintes. Comme l'avortement n'est pas légal en Haïti, eh bien, elles essayent par les moyens de perdre ce bébé. Certaines continuent leur grossesse et en fait, une fois qu'elles se retrouvent avec cet enfant, eh bien, elles ont non seulement besoin de subvenir à leurs propres besoins, mais aussi à ceux du bébé.
Le donc, tout en vivant encore dans la peur, puisque vous soulignez tout que souvent, fait. Elles sont contraintes de vivre tout près de ceux qui les ont agressées.
Tout à fait, tout à fait. Donc pour nous, ces situations-là sont vraiment d'autant plus dramatiques qu'on peut les catégoriser de traite des êtres humains. C'est bien ça, c'est une exploitation des jeunes filles, des enfants à des fins sexuelles. C'est vraiment un mode systématique en fait, qui est répété sur les filles qui sont vraiment considérées comme au service des gangs, complètement au service des gangs. Voilà. Donc, c'est important, effectivement, de mettre ça en avant. Pour autant, les jeunes garçons ne sont pas non plus, eux, indemnes, puisque, à leur tour, ils sont victimes aussi d'exactions. Et donc, à leur niveau, on va plutôt parler de recrutement par les gangs. Pardon,
et ça, c'est le troisième point que vous soulevez dans votre rapport.
Tout à fait.
Le fait, et là, les garçons et les filles sont concernés puisqu'ils sont contraints de travailler avec les gangs, d'effectuer parfois des toutes petites tâches, mais sous la pression des gangs. Et votre rapport a pu présenter quelques pistes des raisons qui les poussent à intégrer ces gangs.
Alors oui, il y a effectivement des filles et des garçons, mais majoritairement, il semblerait que ce soit quand même les garçons qui soient victimes donc, de ces recrutements. Et en fait, ils sont attirés par les membres des gangs dans la rue lorsqu'ils sont en train de jouer ou lorsqu'ils sont entre copains dehors. Et on leur propose de l'argent. Pour certains, c'est forcément quelque chose qui attire, puisqu'ils vivent dans des familles qui sont dans un besoin énorme, y compris sans manger à sa faim. Et donc, ces enfants, en fait, sont attirés par les gangs ou menacés s'ils ne veulent pas les suivre. Et alors, en fait, soit ils sont utilisés, comme vous le soulignez, pour faire des petites courses, des intermédiaires, ou soit ils sont utilisés pour espionner les gangs adverses. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que s'ils se font repérer par les gangs adverses, ils peuvent, c'est au péril de leur vie, en fait. Et donc, il y a un enfant de 14 ans, là, qui cite dans le rapport, l'autre gang peut me prendre, et s'il me prend, il va me tuer, et il va même brûler mon corps. Voilà, ce qu'ont des enfants, vraiment de jeunes enfants, sont en capacité de nous dire, ce qui prouve bien à quel point ils sont marqués par cette offensive en fait qui est faite à leur encontre.
Et puis certains de ces enfants vous ont aussi expliqué qu'ils avaient cédé, qu'ils avaient collaboré par peur notamment de la police ou d'habitants. Qu'est-ce qu'ils craignent ?
Alors, en fait, ils craignent les habitants parce que certains se sont regroupés en autodéfense. Donc, lorsqu'ils sont repérés par des habitants comme servant un gang, ils peuvent être donc pris à partie, malmenés, blessés, parce qu'ils appartiennent à un gang qui n'est pas celui habituel du quartier. Et pareil avec la police, ils peuvent être arrêtés comme étant considérés comme membres du gang, donc présumés coupables. Donc, ce qui fait qu'ils ont peur à la fois de la police, des habitants et des gangs qui les emploient, ainsi que des gangs adverses. Autrement dit, ils ont peur de tout le monde, ils sont dans une insécurité terrible. Ils ne sont pas protégés par un principe de non-sanction qui devrait prévaloir, puisque, en fait, étant enfants, ils ne peuvent pas être rendus coupables d'actes qu'ils commettent sous la menace des gangs. Donc, on est dans une situation absolument terrible. Ces enfants sont véritablement exploités, eux aussi. On peut dire qu'il s'agit là aussi d'une traite des êtres humains.
Et puis je précise que votre organisation Amnesty indique dans le rapport qu'elle a écrit au Premier ministre de Transition en décembre dernier sans jamais recevoir la moindre réponse. Merci beaucoup Anne Savinel Barras d'avoir été en ligne avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes la présidente d'Amnesty en France. Merci.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
La scène a sidéré les journalistes à la Maison-Blanche et dans le monde entier et elle s'affiche en une de toute la presse aujourd'hui que vous avez lue pour nous. Achim Lippold, bonjour.
Bonjour Anne.
Elon Musk qui défend la réforme de l'administration américaine lors d'une conférence de presse au format tout à fait inédit.
Exactement, New York Times, Folha de São Paulo ou encore le journal argentin Clarín. Tous publient ce matin la photo d'Elon Musk rependant dans le bureau ovale aux questions des médias. À ses côtés, Donald Trump et le fils d'Elon Musk. Sur une photo, on voit même le petit assis sur l'épaule de son père sous le regard pas vraiment amusé de Donald Trump. Et pendant que son père explique donc la réforme menée par la Commission pour l'efficacité gouvernementale, la DOGE, eh bien son fils cursonné fait des grimaces et interrompt sans cesse son père. D'ailleurs, sa mère, la musicienne Grimes, ex-compagne d'Elon Musk, n'a guère apprécié cette scène, rapporte The Daily Beast. Il ne devrait pas être en public comme ça, a-t-elle écrit sur X.
Alors, le petit garçon a amusé la presse, mais les journaux n'en oublient pas pour autant le fond, les propos d'Elon Musk qui, tout en prévenant qu'il ferait des erreurs et qu'il diffuserait de fausses informations, a martelé son message contre les fonctionnaires.
Si les bureaucrates gouvernent, si la bureaucratie est aux commandes, quel est le sens de la démocratie? Si le peuple ne peut pas voter et faire en sorte que sa volonté soit appliquée par ses représentants élus, que ce soit le président, le Sénat ou la Chambre des représentants, alors nous ne vivons pas dans une démocratie, nous vivons dans une bureaucratie. Nous devons également nous attaquer au déficit. Nous avons un déficit de 2000 milliards de dollars. Si nous ne faisons rien pour combler ce déficit, notre pays va faire faillite. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas facultatif pour nous de nous asseoir pour réduire les dépenses fédérales. C'est essentiel.
Alors, qu'en pense la presse, Harim ?
Eh bien, Anne, le New York Times, par exemple, n'est pas convaincu par les explications de l'homme le plus riche du monde. Ses affirmations sur les fraudes au sein de l'administration fédérale ne peuvent pas être vérifiées, écrit le New York Times. Et quant à la transparence avec laquelle la commission DOGE est censée travailler, eh bien, le quotidien émet des doutes. En réalité, écrit le New York Times, l'équipe d'Elon Musk opère dans le plus grand secret. Elle surprend les employés fédéraux en se rendant à l'improviste dans les agences et en accédant à des systèmes de données sensibles. Selon un ancien haut fonctionnaire qui a travaillé sous les présidences Reagan et Bush Senior, bon ça remonte un peu il est vrai, le travail de la commission DOGE est anticonstitutionnel en fait, elle fait fi de deux principes fondamentaux de notre gouvernement, explique-t-il dans le Washington Post. Nous sommes une nation fondée sur les lois et c'est le Congrès qui contrôle les dépenses et adopte les lois. Le président doit donc exécuter fidèlement les lois du Congrès et gérer les agences exécutives conformément à la Constitution et non pas par un droit divin ou un pouvoir absolu. En tout cas, selon le Washington Post, le décret que Donald Trump a signé hier prévoit des réductions substantielles des effectifs fédéraux. Le décret ordonne en fait aux agences américaines de travailler en étroite collaboration avec Elon Musk afin d'appliquer cette mesure.
Les fonctionnaires donc qui sont dans le viseur d'Elon Musk et de la nouvelle administration Trump, poussés à la démission, souvent placés en congé forcé après la fermeture de plusieurs agences fédérales, beaucoup critiques, et pour certains publiquement, comme ici à Washington. Reportage, Guillaume Nodin.
Ils sont quelques centaines à la mi-journée, juste au nord du Capitole. Ils sont pour la plupart fonctionnaires fédéraux et ils sont réunis à l'appel de leur syndicat pour écouter leurs dirigeants et des élus démocrates et surtout pour faire passer un message comme Alexis qui travaille dans la sécurité des transports.
C'est important pour tout le monde d'être ici aujourd'hui pour que nous puissions alerter la nation au sujet de la sécurité de nos emplois, la sécurité de nos familles et aussi sur ce qui se passe avec la nouvelle administration et nos inquiétudes. Nous voulons protéger nos employés de la fonction publique et nos agences gouvernementales.
À quelques pas, Adam, qui lui aussi se contente de donner son prénom, explique qu'il a bien reçu l'offre de démission envoyée à plus de 2 millions de fonctionnaires.
C'est tellement offensant parce qu'il y a toutes ces insultes contre les employés fédéraux et il y a des menaces. Et nous avons bien vu ce qui est arrivé avec Musk et Twitter. Ils mentent et c'est une arnaque. Ils essaient juste de faire peur à tout le monde en disant que le boulot va devenir si horrible qu'il vaut mieux démissionner. Et j'ai décidé de faire partie des gens qui s'y opposent en disant que c'est inacceptable.
Pour l'instant, l'offre est suspendue par la justice, mais l'administration continue à chercher des économies tous azimuts. Guillaume Monin, Washington, RFI.
Et l'inquiétude des fonctionnaires se retrouve aussi dans la presse à Rimlipol.
Oui, le journal en ligne Politico en a pu contacter 4 fonctionnaires fédéraux. Ils décrivent une ambiance anxiogène au sein de leur administration. L'équipe d'Elon Musk a investi les agences fédérales pour évaluer la productivité des employés. Nombreux d'entre eux, après avoir rencontré les lieutenants du milliardaire, écrit Politico, craignent que les postes jugés incompatibles avec le style de travail de la Silicon Valley soient menacés. Les entretiens sont tendus, explique un fonctionnaire à Politico. On a peur de prononcer un mot qui pourrait nous être fatal. Lors de ces entretiens, aucune attention n'est portée à l'expérience de la personne. Ce qui compte, explique les employés contactés donc par Politico, c'est la loyauté envers la nouvelle administration. Et pour mener à bien cette réforme, la commission d'Elon Musk a recours évidemment à des outils comme l'intelligence artificielle, censée donc améliorer la productivité, l'efficacité des fonctionnaires.
Revue de presse signée Achim Lippold.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique, où il y a de la friture sur la ligne entre le nouveau préfet et le chef de file de la contestation contre la vie chère.
Oui, Étienne Desplanques, c'est son nom, a laissé entendre à son arrivée qu'une rencontre avec Rodrigue Petitot ne figurait pas au premier rang de ses priorités. Magnanime, le leader du RPRAC, lui, veut croire que le représentant de l'État reviendra vite à de meilleurs sentiments. Rodrigue Petitot est interrogé par Alain Livory.
Nous attendons une nouvelle table ronde avec tous les acteurs. Le nouveau préfet qui arrive est un des acteurs. Donc, nous avons à cœur de découvrir ses intentions pour solutionner ce problème-là. Après, nous avons compris aussi que, même à notre niveau, quelquefois, les mots ne sont pas adéquats à la pensée. Donc, j'ose penser qu'il a eu des mots qui n'étaient pas adéquats à ce dont il pensait. Mais je pense que, sachant qu'il a un palmarès derrière lui qui est assez agréable, je pense qu'il a à cœur de recevoir tous ceux qui œuvrent contre la vie chère, tous les acteurs, sachant que le RPRAC est acteur majeur dans ce combat initié depuis le 1er septembre. Donc pour le moment, nous n'avons aucune mauvaise vision de sa façon de faire. Nous avons simplement envoyé un courrier pour lui faire savoir que nous sommes en attente d'être reçus par lui pour que le travail puisse continuer. Donc nous sommes dans cet état d'esprit.
Direction la Guyane avec un tout autre sujet, la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, en discussion hier à la collectivité territoriale. Objectif d'ici à quelques années, un territoire 100% énergie renouvelable. Inès Apetovi.
Une production d'électricité reposant à 100% sur les énergies renouvelables dès 2026, une réduction des émissions de CO2 parmi les plus faibles au monde ou encore un accès universel à l'électricité pour toutes les zones isolées d'ici à 2033. Ces quelques objectifs de la nouvelle PPE sont atteignables selon le premier vice-président de la CTG, actuel président par intérim Jean-Paul Ferreira.
À horizon 2028-2030, la Guyane sera déjà totalement en 100% énergie renouvelable. Charge à nous, effectivement, d'être suffisamment pédagogues pour pouvoir expliquer un certain nombre de choix qui sont proposés, mais je rappelle que ce sont des propositions de choix et qui doivent être amendées, évidemment, par l'ensemble des acteurs.
Côté entreprise, certains points n'ont pas été soulignés, ce que regrette le patron de Total Énergie Renouvelable en Guyane, Olivier Wattez.
Ce qui manque encore, des briques de projets solaires, notamment, à la fois sur les zones entreprisées, c'est ce qu'on fait sur les parkings de l'aéroport, par exemple, où on a aussi un projet de solaire flottant sur Petit-Saut, mais surtout des projets solaires structurants qui soient des projets non intermittents, que l'on appelle le solaire pilotable. Et moi, ça, je suis convaincu que c'est des projets qui sont essentiels.
Les discussions viennent de commencer, tout peut encore changer. Les acteurs ont jusqu'à mai pour soumettre leurs propositions d'amendement.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était réalisée ce mercredi par Vincent Biteau. On se retrouve demain à 11h30, temps universel. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pascal Paradou pour son émission de Vive Voix. Très bonne journée à tous.
RFI, la sélection du mois.
Arat Kilo et Mamani Keita. Andy S.
Trop de techniques qu'il y a dans la cabeça. T'as fait le malin mais tu t'abaisses. Le pain que tu caches on aimerait ça. Sans payer, sans sortir les mappés. Trop de techniques qu'il y a dans la cabeça. T'as fait le malin mais tu t'abaisses. Le pain que tu caches on aimerait ça. Sans payer, sans sortir les mappés.
RFI Musique.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Pourquoi les filles doivent oser devenir ingénieures? Comment les sensibiliser dès le lycée?
Jeudi.
Sirènes de police, klaxons, construction d'immeubles, musique. Mais dans quel monde de bruit vivez-vous?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.